haute fréquence, Jean-Christophe Emery.
Leur nom sonne comme une marque de céréales. Ils estiment que la lumière de Dieu est accessible à tous. Ils s'engagent dans l'humanitaire, le dialogue interreligieux, la promotion de la paix. Ils sont plutôt discrets et très actifs. Nous parlons ce soir des Quakers qui nous laissent visiter leur centre à Genève. Écoutez Actualité.
Radio Suisse Romande, la première, haute fréquence.
Les Quakers, un nom qui signifie littéralement les trembleurs, shakers, un sobriquet pas très flatteur pour les premiers membres de la société religieuse des Amis qui prêchaient de trembler devant Dieu. Ce mouvement, fondé en Angleterre au XVIIe siècle, compte aujourd'hui 350 000 membres à travers le monde, une petite centaine en Suisse. Les Quakers sont discrets, peu connus du large public. Ce sont eux, pourtant, qui ont obtenu le prix Nobel de la paix en 1947 pour leur engagement dans l'humanitaire et le travail de réconciliation d'après-guerre. Les Quakers, c'est un groupe religieux issu du christianisme, mais avec cette particularité, il n'a ni dogme, ni structure hiérarchique. Nous vous proposons de les découvrir dans leur maison à Genève, avec ce reportage signé Christophe Boisset.
Bonjour.
Je suis bien chez les Quakers.
Oui, bienvenue, bienvenue.
Michel Mégard.
C'est ça.
Alors vous nous accueillez ici à l'entrée d'une grande maison, on appelle ça la maison Quakers de Genève.
Les Quakers, on s'appelle les Amis entre nous. Donc les Amis, dans les années 70, ont eu l'occasion d'acquérir cette maison pour leur activité auprès des Nations Unies, auprès des diplomates. Donc c'était intéressant de se trouver au Mervolet. À l'époque, le quartier n'était pas encore protégé, maintenant il est protégé. C'est effectivement un coin un peu miraculeux. En général, on entend les oiseaux, et ce matin, je vois qu'il y a une magnifique libellule ici. Voilà, entrez seulement.
Voilà, il y a déjà quelques personnes qui sont arrivées ce matin.
C'est un peu particulier parce que nous sommes venus avant l'heure du culte pour pouvoir avoir cet entretien.
Alors, les Quakers, vous nous avez dit que c'est la société des Amis. C'est un mouvement religieux. On ne voit pas beaucoup de signes religieux en rentrant dans cette maison. Il y a de la publicité pour Calvin.
Il n'y a pas de signes religieux pour la société religieuse en général. Il n'y a pas de symbole.
Vous nous emmenez où, là ?
Donc, quelques escaliers mènent à une salle qui a été bâtie sous la terrasse de la maison. Pour nous, c'est la salle de culte. Pour le groupe Quaker, pour d'autres groupes qui y viennent, c'est des salles où ils peuvent faire du yoga, de la danse, où il y a des groupes religieux, bouddhistes, hindouistes ou d'autres qui viennent parfois aussi tenir leur rencontre ici.
Le quakerisme est souvent désigné comme un mouvement religieux issu du protestantisme.
Historiquement, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact, c'est que les premiers quakers qui se trouvaient en Angleterre au XVIIe siècle étaient plongés dans la religion chrétienne anglicane et que c'était l'une des nombreuses sectes ou groupes divergents de l'époque. Il y a eu toutes sortes de groupes qui ont existé, qui ont eu toutes sortes de noms. Et celui-là, on peut dire, c'en est un qui a réussi, qui a eu la chance. Il y a eu une conjoncture d'événements qui a fait que ce groupe a perduré. Donc le fondateur le plus connu, c'est George Fox. Il y a d'autres personnes autour de George Fox qui ont participé à la création de ce groupe. Mais ils avaient en commun le fait d'être insatisfaits de l'institution religieuse dans laquelle ils étaient obligés de participer.
On peut dire qu'ils ont en commun avec les protestants un certain esprit réformateur.
Oui, les Quakers souvent sont désignés comme un groupe qui revendique le retour à l'origine du christianisme, à une sorte de christianisme plus pur ou plus vrai. Mais à la fois George Fox et les personnes autour de lui, si la Bible était très importante pour eux, George Fox la connaissait quasi par cœur, il pouvait citer des parties. En même temps, exactement en même temps, il disait « mais ce n'est pas le plus important c'est l'appel intérieur, ce qui peut être la vérité telle que je la ressens en moi. » Donc la Bible, elle vient qu'après. La première chose, c'est la connexion, le contact direct que je peux avoir avec la transcendance, le Dieu, avec ce qui nous dépasse.
Il y a Voltaire qui citait les Quakers. Il utilisait le terme les primitifs pour signifier ce retour aux origines. Comment vous décririez-vous ce christianisme primitif que vous cherchez ?
Je pense que ça va bien plus loin que le christianisme. C'est-à-dire que dans le contexte du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, en Europe, on était plongé dans le christianisme. Aujourd'hui, il y a des Quakers qui revendiquent leur athéisme ou d'être agnostiques, ou il y a des Quakers bouddhistes et des Quakers. On avait ici une membre orthodoxe, il y a des Quakers hindouistes, musulmans, juifs, de tout. C'est-à-dire que le quakerisme, on a dit tout à l'heure, c'est un mouvement religieux, c'est une société religieuse officiellement, ce n'est pas une religion. Et la plupart des groupes quakers acceptent la double appartenance. Donc c'est le cas en Suisse en particulier. Pour nous, on peut être quaker et en même temps appartenir à un autre groupe religieux. Ça pose pas de problème. On peut voir déjà dans les premiers textes théologiques, même s'il y en a très peu, mais il y a quelques textes qui donnent un peu une idée de la théologie quaker, elle se distingue autant des catholiques que des protestants, déjà au XVIIe siècle, en renvoyant tous les deux dans le sens qu'ils utilisent des intermédiaires entre Dieu et les gens. Et le fond du quakerisme, c'est de dire qu'en toute personne, il y a une étincelle divine, donc toute personne est à respecter, et toute personne a ce lien direct avec la transcendance. Et certaines personnes disent que les quakers, c'est un groupe entièrement laïque, où il n'y a pas de gens qui sont investis du rôle de prêtrise ou d'intermédiaire. D'autres disent en fait c'est le contraire. Chez les quakers, tout le monde, tous sont investis de ce rôle de transmission, de lien avec la transcendance. Le culte, c'est un pis-aller, comment dire, c'est un temps qu'on se donne pour vivre autant que possible cette relation à la transcendance. Le temps de culte, c'est un temps qui est basé sur 1 heure de silence, où les gens ils s'asseyent dans le cercle qui est là, composé devant nous de chaises, qui sont en rond ou parfois en carré, ou ça dépend de la forme des locaux, des idées des gens. Ici, nous avons une petite table au milieu que j'ai toujours vue, et je pense qu'elle a bientôt un siècle, cette table, parce qu'elle a vraiment suivi le groupe Quaker de Genève à travers ses pérégrinations. C'est une jolie petite table sur laquelle la personne qui est chargée, et chaque dimanche, c'est une autre personne qui est chargée d'accueillir les gens qui arrivent à la porte et ensuite de terminer le culte quand c'est l'heure. La personne qui est chargée du culte va poser soit quelques fleurs, soit une bougie, soit une Bible, soit plusieurs Bibles en français et en anglais, soit un livre qui fait un peu une synthèse de beaucoup d'expériences des Quakers qu'on appelle foi et pratique. Généralement, on a une douzaine, une quinzaine ici à Genève pour le dimanche.
Les personnes arrivent et là, qu'est-ce qu'elles font?
C'est la grande question. Chacun essaye de se poser déjà, d'atterrir, de vider un peu son esprit. Il y a un côté méditation, mais ce n'est pas une méditation puisque ce n'est pas individuel, c'est collectif. On est ensemble. Nous sommes en silence. Et dans ce recueillement, si quelqu'un se sent appelé à partager quelque chose, cette personne va se lever et donner son message. Tout ce que j'ai à faire, moi, qui est assis ici, c'est juste à essayer de l'accueillir, de l'écouter sans le juger et de voir en quoi ça peut me toucher.
Mais finalement, qu'est-ce qui réunit les Quakers entre eux et notamment dans les cultes ici le dimanche matin?
Je pense qu'une des spécificités du Quakerisme, c'est quand vous posez la question « qu'est-ce que c'est le Quakerisme ?», la personne va vous répondre « pour moi, le Quakerisme, c'est ». Donc on va toujours partir de mon expérience. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, donc je ne peux pas parler pour les autres. Je peux dire que pour moi-même ce que c'est. Pour moi, c'est presque une définition du quakerisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire « c'est pour tout le monde, c'est ça ». Beaucoup de gens viennent au quakerisme. C'est très souvent parce qu'après avoir fait le tour de plusieurs autres religions, lieux de culte, trouver un lieu où on ne leur pose pas la question quand ils arrivent « en quoi vous croyez ?» Déjà, on ne leur dit pas « il faut croire en ceci, en cela ». On ne va pas dire aux gens « vous devez prier ceci ou cela avec tel ou tel mot ». Les personnes qui viennent ici se retrouvent dans cette ouverture qui permet à tout le monde d'être absolument égal. Donc, je disais tout à l'heure, une des conséquences de cet axiome de base, qui a cette lumière intérieure ou cette partie de Dieu, on peut dire aussi, en chacun, une des conséquences, c'est que tout le monde est égaux. Et que dès le tout début du quakerisme, les femmes ont eu une place aussi importante que les hommes. Dans la société de l'époque, ce n'était pas évident.
Vous parliez de l'importance de l'égalité. Il y a d'autres valeurs qui sont portées par les quakers. C'est notamment pour celles-là qu'on les reconnaît aussi à travers l'histoire. le refus de tout serment.
Oui, il y a ce qu'on appelle les témoignages Quaker, qui sont une série d'affirmations qui sont interreliées étroitement, dont le refus du serment, c'est plutôt une conséquence du témoignage de vérité. Le témoignage de vérité, c'est de dire qu'en tout temps, en tout lieu, les Quakers tentent de dire la vérité telle qu'ils la sentent profondément en eux. Donc, prêter serment, c'est diminuer ce témoignage, puis c'est dire qu'à certains moments, on va plus dire la vérité qu'à d'autres. Ce qui fait que les premiers Quakers ont refusé de prêter serment, et pour cela, ils ont été embastillés et poursuivis. Ça, c'est le témoignage de vérité. Alors, tous les témoignages sont étroitement liés. Un témoignage qu'on dit de simplicité, on voit dans ce lieu ici qu'il y a une paroi blanche, il y a une autre paroi, c'est juste un rideau uniforme. Et la simplicité se trouvait au début dans les habits aussi. Il y a un autre témoignage, c'est le témoignage de non-violence, de paix. Si pour moi, en chaque personne, il y a une lumière intérieure, une étincelle divine, elle est à respecter. Donc ça me pousse à l'action. Je ne peux pas rester inactif, ça me pousse à l'action ou en tout cas à des prises de position.
Alors Michel Mégard, les premières personnes qui viennent au culte sont en train d'arriver. Voilà, les participants prennent place en silence. Le culte commence maintenant. Il va durer une heure. Nous arrivons à la fin de ce moment de recueillement. Les gens commencent à se lever et se quittent en se serrant la main. Le culte est terminé. Bonjour Caroline Demel.
Bonjour.
Vous travaillez au bureau Quaker dans cette même maison.
Voilà, le culte est en bas et le bureau Quaker est en haut. Je vous propose qu'on y monte.
Ok, vous nous emmenez, on vous suit.
Ça, c'est la pièce où les gens prennent le thé après le culte. C'est notre école d'été. Un groupe d'une vingtaine de jeunes, surtout anglais, qui viennent découvrir le travail des organisations internationales à Genève pendant 2 semaines. Alors, on arrive au rez-de-chaussée de la maison et je pense que c'est les pièces les plus importantes. Vous voyez la cuisine, une grande cuisine, et 3 salons en enfilade. C'est là où nous tenons nos réunions avec les délégués, les autres organisations non gouvernementales à Genève. Et souvent, c'est des repas, d'où l'importance de la cuisine.
Des magnifiques salons, on peut s'y installer ? Alors c'est un lieu particulier, un lieu spécial, chargé d'histoire, qui a accueilli des personnalités.
Oui, beaucoup de processus importants dont je pense que tout le monde a entendu parler ont démarré ici, les idées ont pu germer ici. Par exemple, l'idée de faire une action contre les mines antipersonnelles. L'idée a pu mûrir et de façon à permettre le gouvernement canadien de prendre les devants pour le traité qui a ensuite été adopté. Ça s'est passé ici. De même que, par exemple, le travail sur les enfants soldats.
Il y a un peu une image de marque Quakers dans les milieux internationaux. En Suisse, ils sont peu connus. Par contre, ils ont une certaine présence, une aura dans les milieux internationaux.
Oui, effectivement. Je pense que c'est parce qu'ils ont été tellement au centre, enfin très discrètement, mais toujours est-il au centre de processus importants. Les gens discutent aux Nations Unies, mais ils ont tendance à répéter leur position gouvernementale. Et ici, une autre dynamique se passe. Probablement parce que ce bureau est établi depuis les années 20, donc les gens savent qu'est-ce qui peut se passer ici. En anglais, on dit « convening power ». En français, je crois que ça veut dire la crédibilité pour convoquer les gens. Enfin, on invite les gens, ils viennent. Et ils viennent parce que c'est nous qui les avons invités. Ils viennent pas forcément, même si le sujet les intéresse moyennement, ils répondent à nos invitations. Et à cause de ce climat de confiance, une fois qu'ils sont là, ben souvent ils parlent assez librement et on peut explorer des nouvelles voies ou des nouvelles possibilités de travail.
Le reportage de Christophe Boisset dans la maison des Quakers à Genève. Il était en compagnie de deux des membres de ce groupe, Michel Mégard et Caroline Demaine, elle-même juriste et active dans le bureau des Quakers auprès des Nations Unies. On poursuit ce dossier après une chanson avec un volet consacré à la dimension interreligieuse de ce mouvement et puis un programme étonnant d'éducation à la non-violence mené dans les prisons américaines. Un tout grand classique du protest song signé Bob Dylan, Blowin' in the Wind, chanson emblématique du mouvement des droits civiques de la révolution 68arde, écrit paraît-il en 10 minutes en 1962. Vous écoutez Haute Fréquence avec ce dossier consacré au mouvement des Quakers et c'est aux relations avec les autres croyances qui nous occupent maintenant, que nous nous intéressons. Entretien avec Édouard Demaine, l'un des membres de la communauté de Genève, également auteur d'un livre intitulé simplement Les Quakers. Je lui ai demandé si cette notion d'étincelle divine présente en chacun, selon les Quakers, traverse aussi les autres religions.
Absolument. Nous sommes convaincus que Dieu peut parler à n'importe qui, n'importe où. Risque fort de lui parler dans sa langue et à sa manière.
Est-ce que Dieu dira la même chose à tous les individus? Qu'est-ce qu'il dira?
Oui, alors là, il y a deux éléments. La première, c'est que dans la Bible, il est dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux ». Donc, il y a un côté collectif. Le culte Quaker est collectif. Ce n'est pas une méditation individuelle.
Mais en même temps, si je reprends votre citation, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom », le christianisme, de manière massive, va traduire ce « en mon nom » dans le sens de, au nom du christianisme. Qu'en est-il des autres religions, des autres traditions religieuses?
Non, pour nous, c'est au nom de Dieu. Pour les Quakers, la question de la divinité du Christ n'est pas une question essentielle. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons ressentir l'Esprit Saint.
Est-ce que ça signifie au fond que dans l'histoire et dans l'actualité des Quakers, il y a un mouvement particulièrement important en direction, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de type pacifique dans la tradition Quaker, de réconciliation de différentes religions?
Absolument. On a toujours été actifs de ce côté-là. Nous sommes ici à Genève, membres de la plateforme interreligieuse. Nous allons sans aucun doute prendre position contre l'initiative sur les minarets. Non, on est toujours en train d'essayer de construire des ponts, d'entretenir des ponts, de garder les bonnes relations avec les autres courants religieux, chrétiens et autres.
Dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, il est fait mention, au fond, de Quakers qui ont des doubles appartenances, de différentes traditions religieuses. Comment c'est possible, ça?
Alors ça nous distingue aussi de, par exemple, l'Église protestante genevoise, qui ne reconnaît pas la double appartenance. Mais chez nous, pourquoi pas? On peut venir d'une autre tradition et on peut respecter ce qu'il y a de valeur dans les deux traditions. Chaque tradition apporte son élément. Le débat a été particulièrement flagrant dans les années 1930, lorsqu'un Indien aux Indes, n'est-ce pas, avait demandé son adhésion à la Société des Amis, mais qu'il souhaitait rester hindou. Et les Quakers à Londres ont réfléchi pendant 4 ans avant de dire que oui, effectivement, ses arguments étaient convaincants et qu'on l'acceptait comme membre. Et nous avons des membres bouddhistes, nous avons des membres de différentes confessions autres que chrétiennes, mais ce qui est peut-être beaucoup plus important ici en Suisse, il y a beaucoup de Quakers qui sont actifs dans leur église locale aussi, parce que même si l'église protestante, il s'agit normalement de protestants, n'accepte pas la double appartenance, ils sont très contents d'avoir le concours de quelqu'un qui apporte son bénévolat.
Comment est-ce que dans la perspective quaker, les Quakers se perçoivent. Est-ce qu'ils se perçoivent comme une sorte de philosophie qui traverse les religions, ou comme une religion à côté des autres? Quelle perception ont-ils d'eux-mêmes?
Alors c'est certainement une religion en soi, la foi Quaker, à côté des autres. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ceci dit, ce n'est pas des compartiments étanches, n'est-ce pas? On discute quand même avec les autres, on fait toutes sortes d'activités religieuses, et surtout, les Quakers s'engagent dans le monde. Ça, c'est une partie centrale de leur foi. C'est une église, si j'ose employer ce mot, une église engagée dans le monde. Alors, évidemment, on est peu nombreux. Si on veut faire quelque chose pour la paix, pour la justice sociale, etc., etc., il faut absolument travailler avec les autres, et les autres, on risque fort de les trouver dans d'autres églises, parce qu'il y a des engagés dans toutes les églises, et nous partons tous de la même source biblique, donc on va se retrouver, et on travaille ensemble.
J'aimerais encore évoquer un aspect de cette perception des Quakers des autres religions, Edward Demen, par rapport à notamment aux organismes religieux, aux structures religieuses dont les Quakers se méfient. Au fond, est-ce qu'il y a une perception du côté des Quakers que les structures religieuses sont par défaut en antagonisme avec la vraie foi?
Oh non, on n'est pas intolérant à ce point. Alors, comme je dis, Dieu peut parler à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il n'y a aucun doute qu'il peut aussi parler au pape. Donc, ces structures ont aussi une façon de générer et de canaliser, de gérer des impulsions religieuses, des inspirations religieuses tout à fait véritables. Donc, nous, en tout cas, on ne contesterait pas du tout ce que font les autres, et ceux qui trouvent une satisfaction spirituelle dans une religion hiérarchique, ben c'est très bien. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens comme nous.
Les propos d'Edward Demen, auteur du livre « Les Quakers », paru aux éditions du Cerf. Muriel Schmitt, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous dirigez un programme de sciences religieuses à l'Université de l'Utah. Merci d'être avec nous en direct depuis Salt Lake City. Vous êtes aussi théologienne et pasteur, et vous vous êtes intéressée aux Quakers, en particulier aux programmes destinés à des détenus américains. Qu'est-ce que c'est que ces programmes pour les prisonniers américains?
Les programmes contemporains qui sont mis en place actuellement par les Quakers, en fait, sont issus de leur souci pour la justice et un traitement humain des criminels qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle déjà et qui s'est imposé tout au long du XIXe siècle. Et puis aujourd'hui, prend des formes sur des formations à la non-violence. Qui a commencé, c'est un programme qui s'appelle l'Alternative à la non-violence, qui a commencé en 1975 dans les prisons new-yorkaises et qui aujourd'hui s'est étendu à 32 États américains et je ne sais pas combien de pays à peu près dans le monde entier. Donc il a pris une ampleur énorme. Ils développent aussi des ateliers d'écriture pour les prisonniers et ils travaillent de manière interconfessionnelle et interreligieuse avec les équipes d'aumônerie.
Comment est-ce qu'on explique l'intérêt assez ciblé, au fond, sur la population carcérale de la part des Quakers?
Alors, c'est ce qu'ils disent quand ils expliquent leur programme d'alternative à la violence, que finalement, ils se sont intéressés à la réhabilitation des prisonniers, à faire des prisonniers, ou en tout cas à transformer le prisonnier, le criminel, en citoyen réhabilité, qui puisse fonctionner socialement. Mais aujourd'hui, ils se sont aussi rendus compte que la violence commençait avant la prison et que c'était presque trop tard d'intervenir au niveau du milieu carcéral. Donc, par exemple, ce programme d'alternative à la violence, c'est maintenant implanté dans beaucoup, beaucoup d'autres milieux aux États-Unis, dans les écoles, dans des foyers d'accueil pour femmes battues, dans les milieux de gangs, des rues des grandes villes américaines, etc., etc.
Est-ce que c'est aussi un effet, au fond, d'une sorte de philosophie humaniste qui traverse le mouvement des Quakers?
Alors, je crois que c'est ce à quoi Michel Maigard faisait allusion tout à l'heure, c'est cette question du témoignage de paix qui était vraiment au centre de cette approche humaniste des Quakers et qui appelle à l'action. Donc qui appelle chaque Quaker à l'action, à l'engagement social, pour une justice sociale, pour la non-violence, etc. etc. Et ce témoignage de paix se traduit à différents niveaux, un engagement international, un engagement au niveau de la non-violence sociale à beaucoup de niveaux, d'éducation, et aussi le travail sur la tolérance religieuse, qui était déjà inscrite en fait dans la constitution de William Penn en 1682. Donc d'ouverture à l'autre religion et de respect fondamental des autres traditions religieuses.
Il y a une chose étonnante quand on découvre ce mouvement des Quakers, c'est au fond l'absence de dogme et l'absence de structure, et pourtant c'est un mouvement qui se maintient, qui arrive au fond à se développer. Et comment ça se fait ça? Comment est-ce que ça s'explique?
Je crois que c'est Michel Maigard qui disait aussi, il se trouve que par différentes conjonctures, les Quakers sont ce groupe du XVIIe siècle qui a survécu tout au long de notre ère. Le nombre est petit, hein, donc on n'a même pas 500 000 de Quakers dans le monde entier, mais je crois qu'il y a cette l'ouverture probablement, la tolérance, le fait de la double appartenance favorise probablement la survie du Quakerisme, et puis je crois aussi quand même l'appel à l'action, l'engagement social, ce refus de dissocier la foi ou l'engagement avec l'engagement.
Au fond, effectivement, on ne peut pas être croyant sans être impliqué dans un programme ou un autre.
Je crois effectivement pour le Quaker, c'est nécessaire. Ça fait partie de sa foi. Ça fait partie de sa foi en l'homme, en l'humain, et en même temps sa foi en divin. Donc il y a une conjonction entre ces deux éléments qui se traduit par l'action, qui se traduit par la lutte pour une justice sociale.
Muriel Schmitt, vous-même, vous êtes théologienne, vous êtes pasteur, même vous avez été consacrée ici en Suisse romande. Quel regard vous portez avec cet héritage et votre bagage spécifique sur cette construction relativement étonnante issue du christianisme des Quakers?
Alors, moi, je vois quand même des similarités, des parentés claires avec le protestantisme, ne serait-ce que la question de l'absence d'intermédiaire entre le croyant et le divin, et le statut de l'écriture, des écritures qui ont un statut historique, qui doivent être interprétées, le témoignage intérieur de l'esprit, je crois que ça c'est aussi quand même très, très fortement empreint de protestantisme, mais je crois quand même la particularité après du Quakerisme, c'est que toutes ces notions ou toutes ces compréhensions du christianisme ne sont pas complètes si on n'a pas d'engagement.
Cette
identité... Oh, pardon.
Non, je vous prie.
Que cette identité chrétienne se traduit fondamentalement par l'engagement.
Cette idée, au fond, de révélation personnelle et directe, de contact avec Dieu, est-ce qu'elle ne laisse pas, au fond, une place pour des dérives, des illuminés qui propagent leurs propres idées un peu facilement dans ce mouvement?
Certainement, comme dans beaucoup de milieux. Les meetings, les moments de rencontre des Quakers ont en place un certain nombre de stratégies pour éviter les débordements de certaines personnes qui pourraient se croire illuminées pendant le service. Mais effectivement, c'est toujours basé sur une tolérance, un respect de l'autre, et une non-violence, une non-agression. Donc on gère la différence, on gère les extrêmes si nécessaire à l'intérieur du groupe.
Et les valeurs sont suffisamment bien ancrées pour au fond éviter des dérapages.
Voilà, oui.
Très bien, Muriel Schmitt, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints pendant quelques minutes depuis Salt Lake City. On vous souhaite une très belle journée.
Merci et une bonne fin de soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Tête. Haute Fréquence touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré à cette édition. Evelyne Auberçon pour l'actualité. Christophe Boisset signait le sujet consacré aux Quakers. Carmen Algarada à la réalisation. Stéphanie Jovanovic, le choix des musiques. Et Gilles Ozaman est en régie. Et puis, on se quitte avec notre chronique consacrée aux fêtes religieuses. Alors, c'est demain. Demain, l'Église orthodoxe célèbre l'une de ses plus grandes.